Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Radio Galaxy 98.5 FM, la radio du sud de Toulouse. Et je suis actuellement avec Charles Chettel, qui va présenter bientôt une conférence Pup en vol, cette fois-ci sur le jazz, qui s'intitule De briques et de jazz, le jazz à Toulouse depuis les années 30. Charles Chettel, bonjour.
Bonjour à vous.
Ça va se dérouler le mercredi 27 avril 2022 à 20h au Bois de Castres à Carbonne. Et vous allez nous parler de quoi ?
Eh bien, on va parler de jazz, hein, puisque c'est bien le titre de la conférence. Et plus précisément, on va parler de jazz à Toulouse. Carbonne n'est pas loin, et je pense que pour beaucoup de ceux qui écoutent cette radio, ils ont des souvenirs, pour ceux qui sont déjà d'un certain âge. Ils ont vécu certainement des expériences dans les caves, dans les bistrots, sur les terrasses. Bref, le jazz est à Toulouse depuis effectivement les années 25-30 et n'a jamais cessé d'offrir justement une programmation renouvelée en permanence depuis toute cette période. Donc il y a du jazz à Toulouse et l'idée c'était de raconter cette histoire qui s'est appuyée sur les témoignages et les souvenirs de deux musiciens qui sont venus sur Toulouse ou qui étaient natifs de Toulouse et que le jazz avait saisi et dont ils avaient fait leur métier.
Et pourquoi le jazz et Toulouse ? Qu'est-ce qui a fait que Toulouse ait amené le jazz ?
Alors, je poserai pas la question tout à fait comme celle-là, parce que j'ai des collègues ou des gens que je connais qui ont publié quelque chose autour du jazz à Bordeaux. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très très longtemps sur le jazz à Marseille. Il y aurait quelque chose qui bouge du côté de Lyon. Toulouse fait partie aussi de ces grandes villes, hors Paris, qui ont historiquement très vite reçu le message du jazz, si j'ose dire. Après la guerre de 14, je vous rappelle qu'en 1917, quand les États-Unis ont décidé d'entrer en guerre avec l'Europe au moment du premier conflit mondial, ils ont envoyé quand même sur le terrain près de 2 millions de bidas et de GIs qui sont venus avec armes et bagages et orchestre. On a des photos, le jazz en France et le jazz en Europe est arrivé via l'Atlantique avec les bateaux des militaires. Il y avait des orchestres très importants, James Reese Europe, etc. Enfin, un certain nombre de chefs d'orchestre qui avaient des formations qui étaient des formations purement militaires, bien entendu, destinées à relever le moral des troupes, mais pas que. Dans le répertoire, il y avait évidemment beaucoup de choses qui relevaient de la danse, qui relevaient de la variété, mais il y avait aussi tout un répertoire de jazz, et les photos en l'attestent, la plupart de ces formations étaient tenues par des musiciens noirs qui avaient donc la tradition du jazz en eux, qui connaissaient et qui ont fait découvrir aux Français et aux Européens, et surtout en France, précisément cette musique qu'on connaissait un petit peu par le fait qu'il y avait eu des enregistrements, qu'il y avait des 78 tours qui avaient traversé l'Atlantique, mais on n'avait jamais vu ça. La Première Guerre mondiale a été l'occasion donc de faire connaissance avec une musique d'origine purement américaine.
Exotique.
Un peu exotique, oui, effectivement.
Vous disiez tout à l'heure, dans les caves et dans les sous-sols, pourquoi le jazz dans les caves et dans les sous-sols ?
Alors, le jazz s'est enterré progressivement. Les années 20 ont vu émerger des orchestres, les années 30 ont vu émerger des orchestres à Paris et en région, comme on dit, notamment des grandes formations qui étaient ce qu'on appelait des jazz de scène, c'est-à-dire des formations musicales qui accompagnaient des comédies musicales, des représentations sur scène, etc. Et donc, ces orchestres, pour vivre, tournaient énormément et tournaient sur les terrasses des bistrots. À Toulouse, le grand lieu de rendez-vous, c'était les allées Jean Jaurès et c'était la place Jaurès où de grandes brasseries, le Café des Américains d'un côté et l'Albrighi de l'autre, étaient en concurrence constante avec des big bands qui étaient sur les terrasses. Et puis, les choses ont évolué, des plus petites formations se sont installées, sont émergées, parce qu'il y avait plein de musiciens à Toulouse qui avaient du talent et qui ont su faire des choses. Et bien entendu, on a retrouvé, dès les années 50, le jazz dans les sous-sols. Et vous savez que le sous-sol toulousain est très riche en caves magnifiques, en caves voûtées de briques. C'était le cas de la tournerie des drogueurs, ça a été le cas de la quinte du 10 avril, ça a été le cas de beaucoup de lieux qui, petit à petit, rue des Blanchets, par exemple, la cave des Blanchets, sont devenus des lieux de rencontres et de génération en génération, les étudiants d'abord et puis les amateurs de l'autre et ceux qui fréquentaient la nuit, ont donné leur chance en quelque sorte à des établissements qui sont devenus très très célèbres pour une génération, 10 ans après c'en était une autre, etc. etc. Donc jusqu'aux années 90, à peu près 2000, on a toujours eu du jazz dans les caves et dans les sous-sols toulousains.
Sachant très bien que la cave offre une acoustique très particulière avec une salle complètement fermée, ce qui est complètement différent d'un jour en extérieur.
Oui, et puis surtout, il y a une ambiance. On est dans une cave, il y a un bar, on fait des rencontres, et il y a de la musique. Bon, enfin, toutes les conditions sont réunies pour que le jazz puisse s'exprimer le mieux possible.
Donc, progressivement, les GIs américains, les premiers, en fait, ceux de 14, sont arrivés. Ça s'est distillé dans la population française, auprès des jeunes particulièrement, des jeunes musiciens qui ont aimé cette musique. Et peu à peu, les jazzmen français sont arrivés.
Alors oui, d'une part parce que cette musique s'est diffusée. Les orchestres américains militaires dont je parlais tout à l'heure faisaient des tournées. Sortaient de leur caserne, on les trouvait sur les kiosques à musique le dimanche, faisaient des tournées dans les principales villes, et du coup, il y a tout un public très populaire qui, a priori, n'aurait eu aucune raison de connaître cette musique, qui l'a découverte précisément parce qu'il y avait les concerts du dimanche auxquels participaient ces musiciens. Et puis, petit à petit, effectivement, les générations de musiciens, que ce soit à Paris ou en région, ont commencé à mettre en place des répertoires, répondre au goût du temps, parce que le jazz, vous le savez, a évolué. La rupture de ce qu'on a appelé le bebop, la révolution du bebop a donné lieu à de nouvelles formes musicales, de nouvelles esthétiques, et puis ensuite ça a évolué, etc., etc., jusqu'au free jazz. Mais donc, il y a toujours eu des musiciens qui ont eu envie de présenter cela, et il y a eu un public pour. Et il y avait des lieux, des publics et des musiciens. Que voulez-vous de plus pour que Toulouse soit une ville à jazz ?
Si, il y a eu en plus la radio qui a bien fait le relais du jazz à Toulouse.
J'attendais que vous me le demandiez, mais bien entendu, la radio très tôt a commencé à servir de repère. Deux grandes stations, une station privée qui était celle de Radio Toulouse, une station publique d'État qui était celle de Radio PTT, qui étaient toutes les deux dans le quartier de la place Jean Jaurès, voilà, où en direct venaient des musiciens. Alors sur Radio Toulouse, on a des témoignages des musiciens qui habitaient à Saint-Cyprien, qui étaient en particulier toute une communauté gitane, avec des musiciens qui étaient dans la mouvance de Django Reinhardt, qui venaient faire des directs à l'antenne. Il y en avait d'autres également. Et tous ces musiciens, évidemment, étaient entendus. Et puis, la radio était aussi un vecteur de pédagogie. Et quelqu'un comme Hugues Panassier, par exemple, a très souvent tenu l'antenne, aussi bien sur les radios public que sur les radios privées, et ceci jusqu'aux années, moi j'avais des témoignages des années 60, mais on a des témoignages d'émissions enregistrées jusqu'aux années 80, dans lesquelles on l'entend continuer à raconter inlassablement l'histoire du jazz qui l'a passionné, et il avait un fort auditorat qui était extrêmement fidèle et qui suivait toutes ses émissions.
Ça s'appelle De Briques de Jazz, c'est à Carbonne, le 27 avril prochain à partir de 20h au Bois de Castres, et je suis actuellement avec Charles Chetel en studio. Qu'est-ce qui vous a, vous, amené au jazz ?
C'est une vieille histoire. J'étais encore en classe de 3e, seconde, et déjà, ça m'intéressait. J'avais déjà des camarades avec qui on se réunissait un peu de temps en temps. Moi, je n'ai pas suivi la carrière des musiciens. D'autres l'ont fait. Je pense en particulier à Michel Bosquero, qui a été un des trompette leader de la formation des Haricots Rouges, qui depuis plus de 50 ans tourne et continue à tourner à travers le monde. Donc ça m'a toujours intéressé, j'ai toujours suivi cela. Et puis j'ai eu l'occasion à Toulouse, en venant professionnellement à Toulouse, de mettre en place une émission de radio autour du jazz. Et donc j'ai reçu énormément de musiciens en direct. Et lorsque le cycle s'est arrêté, j'ai trouvé dommage qu'on perde toute cette mémoire, que nous avions enregistrées, de musiciens qui avaient vécu les années 30, 40, 50, qui avaient plein de choses à raconter. Et donc, je suis retourné les voir, j'ai repris les interviews et j'en ai fait un bouquin. Voilà.
Un bouquin qui s'appelle
« De briques et de jazz », publié chez Atlantica.
Combien de pages ?
300 pages et des poussières, un peu plus de 300 pages, 180 ou 200 photos, beaucoup d'illustrations en noir, en couleur.
Beaucoup d'inédits, parce que j'ai eu l'occasion de feuilleter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Oui, parce que la plupart des photos viennent précisément des albums photos des musiciens eux-mêmes, donc des choses inédites.
Vous, avec votre regard aujourd'hui, comment vous voyez l'évolution du jazz depuis les années 50 justement ?
Ben, c'est une musique qui est étonnante parce qu'elle se renouvelle en permanence, mais en même temps, elle perpétue certaines traditions. Autrement dit, on trouve encore aujourd'hui un certain nombre de formations de jazz qui continuent à jouer du jazz traditionnel, du jazz Nouvelle-Orléans, parce que c'est quelque chose qui plaît à ces musiciens-là. Vous avez toute une frange de musiciens extrêmement pointus qui jouent un jazz très expérimental, et qu'on trouve à Toulouse, je pense à une association comme le Bridge par exemple, qui est en permanence en lien, et c'est précisément pourquoi il s'appelle le Bridge, le pont, qui est en lien avec des musiciens aux États-Unis et notamment à New York, avec la jeune scène new-yorkaise, avec lesquels ils montent des concerts, des opérations de toute nature. Vous avez évidemment toute une tradition de jazz middle ou bebop, avec un certain nombre d'autres formations qui, elles, continuent à tourner dans ce domaine. Autrement dit, le jazz évolue, c'est vrai, mais tous les éléments qui ont fait son histoire restent quand même d'actualité. Un peu comme quand vous vous promenez dans une rue et vous trouvez des maisons art déco et puis un bâtiment avec une façade 18e.
Lors de votre conférence Pipe en vol, le mercredi 27 avril 2022, quel va être votre angle d'attaque ?
Je vais essayer de laisser filer la chronologie, mais la chronologie toulousaine. C'est-à-dire que je vais promener les gens avec une géographie des lieux à jazz dans Toulouse. On partira effectivement des terrasses, des grandes terrasses autour du centre-ville, et puis on ira peu à peu raconter l'histoire d'un certain nombre de lieux très célèbres. J'ai évoqué la tournerie des drogueurs, j'ai évoqué d'autres sur lesquels on reviendra, qui ont été des lieux qui ont marqué. Et par conséquent, s'ils ont marqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens à y venir, qu'il y a eu des musiciens à venir. Énormément de musiciens en tournée, par exemple, s'arrêtaient à Toulouse et finissaient la soirée pour faire des bœufs monumentaux dans les boîtes où on retrouvait les orchestres de jazz. Donc c'est cette géographie que je vais essayer de faire parcourir à mes auditeurs sur l'ensemble de la ville.
Par rapport à cette histoire du jazz sur Toulouse, il y a des époques phares, j'imagine, des époques un peu plus modestes. Quels sont les moments clés de cette histoire de Toulouse au jazz ?
Ben, en fait, on va dire que les 10-15 dernières années ont été quand même beaucoup plus faibles parce que les lieux à jazz ont pratiquement disparu. Les bistrots, les restaurants qui accueillaient des musiciens qui avaient l'habitude de faire entendre du jazz ont pour beaucoup cessé de le faire, pour des tas de raisons, parce que ça n'est plus audible, parce que ça fait du bruit le soir, parce que, bon, il y a plein de raisons pour lesquelles ça ne marche plus. Mais si on reprend le chose avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'au fond, il y a eu pratiquement tous les 10-15 ans, il y a eu un lieu qui a disparu, mais un autre qui a pris le relais. Et donc, il y a toujours eu des lieux forts. Il y a eu des périodes tout à fait importantes. Les années 70, par exemple, on avait dans Toulouse un certain nombre de salles, le Capitole, les salles de gymnastique, les théâtres, des cinémas. Il y avait un tas de lieux où on pouvait entendre de la musique. Par exemple, dans les années 70, on a eu la même année Ella Fitzgerald, Ray Charles et quelques autres enfin, qui étaient là. Donc il y a eu des moments très très forts comme ceux-là en termes de programmation, puisque le livre que j'ai écrit raconte l'histoire évidemment des lieux toulousains, ce qui sera l'objet de ma conférence, mais raconte aussi la vie toulousaine et le jazz. Autrement dit, j'ai épluché toutes les programmations qui se sont faites sur trois quarts de siècle, et j'ai fait un relevé assez précis de presque tous les concerts, année après année. Et donc, on s'aperçoit que Toulouse a toujours été sur le chemin des tournées organisées pour les musiciens.
Ça s'appelle « De briques et de jazz », le jazz à Toulouse depuis les années 30. C'est le mercredi 27 avril 2022 à 20h à Carbone, Bois de Castres. Et c'est présenté par le conférencier Charles Schettel, auteur de l'ouvrage du même nom, « De briques et de jazz ». Charles Schettel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis, ben, mercredi pour la conférence.
Je l'espère. À très bientôt.
autour de minuit. Je donne parfois un quart à ma bonne étoile, la plus belle des stars. Elle est en retard, bien sûr. Cette étoile au baiser d'azur. Elle est en retard, bien sûr. Du fond de ses nuits. Mais moi, je l'attends quand même. Du fond de mon puits, je l'attends comme une maman. Dans le noir du fir, maman, je l'attends sous un vieux bec de jazz. Vu de loin, je peux paraître un peu naze. Mais ne t'inquiète pas, passant, si tu me croises au tournant. Je ne guette comme un gosse un clin d'œil du cosmos. Spinnip autour de minuit, allez lui, je t'attends. Oh toi ma bonne étoile, allez va, descends. Dans tes bras, dans les lumières, je veux tomber.